tu me diras de l'être.
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est Femme libre sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble le libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 35e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Frédéric Omanet. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Voilà, et l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre sur le blog, eh bien c'est émission-femmes-libres.blogspot.com. Et ça vous permet de réécouter les émissions et d'avoir le programme. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, Opus Poétique, 2 ouvrages publiés aux éditions La Rumeur Libre. Histoire d'une marche en plein ciel, suivie de Poussière, de Héloïse Sécula, et Les Naufragés du désert, de Zingonia Zingon. Ensuite, nous recevrons Somaïe Rostampour pour Femmes en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la généalogie. Et c'est aux éditions Agon. Et puis, nous terminerons par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Donc, nous allons écouter l'opus poétique. Bonsoir. Bonsoir Sandrine Malika, et bien c'est toi qui nous propose l'opus poétique.
Bonsoir Hélène. Alors, Héloïse Sécula est comédienne, autrice et metteuse en scène. Elle demeure dans la région lyonnaise. Alors les deux textes, Histoire d'une marche en plein ciel, suivie de poussière, publié à la Rumeur Libre, évoquent en fait, disons, une femme au bord d'eux. Alors, je pourrais presque dire une femme, ça me rappelle un peu comme ça, une femme sous influence, à la manière de Jenna Rollands. Mais bon, c'est écrit de la façon dont l'autrice veut nous transmettre cette espèce d'errance, ce grand départ. Donc, Histoire d'une marche en plein ciel, dont je vais lire quelques extraits. C'est d'ailleurs l'annonce d'abord d'un départ, voilà. L'annonce d'un départ. Je pars, je me barre, je me fais la malle, j'empaquette mes clics et mes claques, je remballe, je pousse la porte et je me tire. Et je la tire, cette porte, derrière moi pour ne jamais revenir, ne pas regarder en arrière vers le passé, ça pourrait me faire chavirer. Sans attache, je largue les amarres, sans bagage, je prends la tangente pourvu que ça m'emmène quelque part, où je ne sais pas, mais je pars, oui. Je me dirige vers la sortie, issue de secours, please, bol d'air frais, s'il vous plaît, j'étouffe, pire, je suffoque. Mes organes ne s'aèrent plus, ils ont besoin d'espace et de liberté bien fraîche. Je suis polluée de l'intérieur par l'air vicié que j'inspire chaque jour de mes entrailles. Ma respiration est auto-centrée en vase clos. Il n'y a plus de renouvellement climatique dans mes poumons, ni dans mes alvéoles. Il faut que je m'expulse d'ici, que je mette les voiles noires. Pénélope quitte Ithaque et n'attend plus Ulysse. Les voiles noires sont celles du départ plus celles du retour d'un défunt. Les voiles noires ne sont plus pour les veuves, mais pour les aventurières, les guerrières d'outre-mer, les faussaires des embarcadères. Mes voiles noires sont le signal de l'appareillage. Je braque la lunette vers un îlot inconnu, là où le vert des arbres est si dense qu'on ne voit plus l'horizon, là où le blanc du ciel est si brumeux que les rayons UV ne brûlent plus la peau, là où le littoral est tellement coloré par les coraux que les humains ne peuvent plus y poser le pied. Sauf moi, bien sûr, reine corail, belle des dunes, parfaite dame nature, oui, je pars idéalement, j'organise un départ fracassant, je m'enfuis sur les routes, c'est moi, la nomade moderne. J'ai un sac, trois pommes, un tissu à plier déplier, une carte avec les dénivelés et mes lunettes de soleil, et puis c'est bon, j'y vais là maintenant, je m'échappe du système, de la base de données mondiale, voilà, je disparais, je m'évapore comme un rêve qui n'a jamais existé. Je ne suis qu'une ombre, la mort qui croise le chemin des voyageurs égarés. Je ne suis que cette lueur d'un phare jamais visité. Je m'éteins pour quitter mon poste. Oui, je deviens alors la vie qui donne le mouvement aux pulsions en nous tous. Je suis tous les éléments qui font l'homéostasie d'un corps. Et puis finalement, non. Je me retire de cet équilibre. Je tire ma révérence. Je quitte le devant de la scène. J'ai assez donné, assez construit, assez vécu, assez reçu. Alors là, tout de suite, je m'extrais d'ici, de cet endroit dans lequel je stagne depuis si longtemps. Et je remets le moteur en marche, mon essence personnelle. Je l'enflamme et désormais j'avance en galopant, sans kérosène. Si, si, le décollage est imminent. Je pars à la renverse du monde en tombant les deux pieds devant, comme dans un grand toboggan. Je vais tout dévaster et tout désaltérer en même temps, tout absorber et tout régénérer sur mon passage. Les bas-côtés refliront et les lisières des forêts seront de nouveau habitées par les biches, les blaireaux, les mulots et les abeilles, les taupes, les rapaces et les sangliers, les papillons et les chevêches, les belettes, les hermines et les fourmis. Je me donne un an et puis alors seulement peut-être je reviendrai raconter mon histoire. Donc, un premier départ qui s'ensuit, qui se poursuit. Fruits secs, chaussettes fines, pansements anti-ampoule, lampe frontale rechargeable, une culotte lavable, facilement. Gourde d'un litre et demi, cape de pluie, veste polaire, t-shirt microfibre, un short long et un short court, réchaud et sa casserole, qui elle-même contient un bol et trois couverts. Couteau suisse bien tranchant, sandales pour marcher dans l'eau sur les cailloux. Petite doudoune coupe-vent, deux bandanas, un pour les oreilles et l'autre pour le cou. Fruits secs, déjà dit. Alors, soupe lyophilisée, oui, voilà. Trois aux légumes, deux asiatiques et une fromage, pour tester. Bâton de marche rétractable, papier et crayon, un bon livre, une carte des chemins de France, de l'argent liquide, un duvet 0 degré. Fruits secs, encore. Non, ça suffit, les graines, j'en ai assez. Conserve de sardines et de thon, plutôt. Papier toilette. Pyjama? Non. Une robe. Une seule, au cas où. Un tube de rouge, juste comme ça. Et, ah oui, un stick à lèvres, de la crème solaire, du désinfectant, une mini brosse à dents, un mini dentifrice. Et mon sac à dos, évidemment, pour ranger tout ça. Un briquet pour faire du feu, mes lunettes de soleil spéciales glacier en été, ma casquette. J'espère que tout va rentrer, sinon je ne sais pas comment je vais faire. Les chaussures de randonnée, je les ai sur moi en plus des vêtements que je porte déjà, maintenant ça fera du rab. Un petit flacon de savon et de shampoing, du doliprane, de l'anti-moustique, peut-être une poche à eau supplémentaire, un kilo de fruits secs, de toute façon, ma carte vitale. Mon chéquier, mes écouteurs, un oreiller gonflable. Bon, je verrai s'il faut en enlever un après. Déjà, j'ai fait ma liste, c'est pas mal, pour commencer. Chaque chose en son temps. Je vais faire quelques étirements pour me détendre. Ça m'a stressé, toute cette préparation, c'est rigoureux un départ. Il faut être à la fois concis, précis, organisé, bref, tout ce qui relève du méthodique que je ne suis pas. Alors voilà, c'est parti et c'est le grand saut. Hop, hop, petite foulée bien rythmée. Et hop, gainage, quelques foulées encore. Pour le cardio, c'est important. Mon cœur qui bat, il doit battre 80 pulsations par minute, comme toujours, il a battu. Hop, abdominaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La chaise, 30 secondes. Je tiens, oui, je résiste. Non, je ne flanche pas. Ça tire, ah, ça me tire les quadriceps. Encore 10 secondes. Soufflez, pensez à respirer, à relâcher. Hop, 5 squats. Restez bien perpendiculaire au sol et hop, un saut en remontant, jambes tendues et soufflez. Voilà, je suis prête. Prête de chez prête. Les graines, les vêtements, la carte, les lunettes, la crème, les fruits secs, la gourde, la cape, la doudoune, les jumelles, le livre, les conserves, le briquet, le réchaud. Allez, j'y vais. Tiens, dehors il pleut. Il pleut des cordes même, des trombes d'eau. Alors je vais passer à poussière. Donc, puisque ce sont deux traversées, comme ça, féminines. Donc, je lis un extrait. Le début. Annonciatrice de mauvaises nouvelles. Bloc de glace, venant de l'extérieur, corps étranger. Depuis les bordures de l'univers, boule de neige, jet de cailloux. De la pierre initiale, rocaille du système solaire, pure et originaire de la nuit des temps. D'un ciel noir, sans lumière, rien qui puisse y briller, à trouver dans un désert de chaleur. Sublimation du gaz, peurs ancestrales, fin du monde, déformation d'une sphère, montagne en voyage. Le Mont Blanc à l'échelle de l'univers. Poésie cosmique, merveille fantastique d'un langage sensible de l'astronomie. la dimension du temps, d'une patience infinie, perception de l'incroyablement lointain, l'histoire astrale avant la matière, moi, simple passeuse, ces souvenirs-là à vous transmettre, le grand récit de la poussière. C'est d'abord une comète, celle qui fuse depuis le lointain, fend le ciel avant notre ciel à nous, débarque dans l'obscur système hasardeux de notre monde, une péripétie dans un océan de rien, une chevelure spectaculaire de son noyau par vaporisation solaire, lumière explosive d'une rapidité fulgurante, éclairée par le même soleil que nous, brûlée par cette même puissance, frappée de ces mêmes rayons, etc., etc. Donc voilà, deux traversées féminines, histoire d'une marche en plein ciel, suivie de poussière, d'Héloïse Sécula, publiée à La Rumeur Libre. Et je poursuis avec, il y a aussi là des histoires de traversées, un peu de désert avec Zingonia Zingon, qui elle a écrit ce poème au départ en espagnol, alors elle est d'origine italienne. Donc elle a écrit Les naufragés du désert en espagnol, elle a été traduite par elle-même et aussi par Aurélia Lassac. Je lis juste quelques mots de la préface écrite par Mohamed El Amraoui qui dit « Les naufragés du désert ont les naufragés du désir. On entend le rythme de la marche, les tourments de l'errance, le halètement qui dit la soif de dire l'amour, mais aussi l'offense et la souillure, la soif de remonter aux sources de ce trouble intérieur qui assaille les poètes et les mystiques. » Donc le recueil est composé de trois histoires, et chaque histoire avec un protagoniste en quête d'amour. On a un homme qui erre dans le désert, Khalil, une femme violée par son père, puis un enfant qui, lui, ne connaît pas son père et est en prise, aux prises, avec sa mère. Alors, voilà, je fais un peu le prince Khalil. Le prince Khalil parcourt les sentiers de la nuit. Il guette les regards tièdes, leur refuge, une étreinte furtive. Des bourgeons souriants dansent dans un rythme entrouvert, virginal. Là où la vie commence avec ses tourments, la soif de plaisir qui étourdit le temps. Le prince aime les roses et se montre doux dans ses caresses. Il aime la rose et l'ouvre avec fureur, la décoiffe. Dans sa poitrine, un rythme d'un autre âge, éternellement prince dans les ténèbres. La rose s'ouvre et dans le frôlement salin des ombres, annonce les profondes palpitations de la femelle qui griffe, se ramasse et devient silence profond dans le rugissement du souverain. Khalil n'arrache pas l'ultime pétale qui veille sur l'esprit. Il couvre le bourgeon et s'éloigne, regarde l'aube aux yeux vitreux. L'étreinte a cessé et la rose n'est plus rose et lui n'est plus prince. Le prince aime la rose et connaît son parfum. Minutieusement, il en parcourt la lisière courbe, agace sa corolle, sillonne le mont, mord le fruit, figue de corail rouge. Il plonge son visage dans les vagues, sa chair dans la chair, avec l'obstination d'un mendiant. La blessure qui demeure écorne la mémoire. Le prince ne connaît pas l'essence, le mystère. Il n'est qu'un vampire addict à l'amour. Le jour, il perd sa couronne, retourne à sa solitude, courtise le souvenir et compte ses pétales. Il n'ouvre pas la bouche, ne bouge pas les mains. Khalil attache son désir au mât, sillonne les vents, conjure le chant des sirènes. La lumière devient femme, dissipe l'air et ses échos. Sa blancheur étonne. Khalil entrevoit les ailes tombées. Fasciné par l'éclat saccadé de la luciole, son appel des tréfonds du ciel, hurlant. Khalil respire l'encens. Elle frôle ses pieds du bout des lèvres. Il sourit et joint ses mains en prière ou en rêve, fronce les sourcils pour voir au-delà. Au-delà de la muse, il y a la lumière. La muse elle-même est lumière, tant de blancheur étourdie. Transparence qui tire mes entrailles avec la pudeur d'un ange, l'autorité d'une déesse. Tu me condamnes à l'impossible abîme. Khalil voudrait se jeter dans le vide. Il perd sa plume d'or. Le parchemin devient miroir. Le verre diaphane lui échappe. La femme aussi lui échappe. Les anges vivent dans le ciel. Dis-moi, blanche Houri, que disent les dieux de moi? Dis-moi où s'achève le chemin et s'il commence par tes baisers. Une caravane d'oiseaux trace la route. Khalil lève les yeux. Quelques nuages annoncent la pluie. C'est le triomphe de la verdure des tropiques, l'exubérance de la terre humide. Khalil respire, libéré des ombres. Et comme des tournesols, des strophes lumineuses naissent de ses mains. Un éclair divise les heures en d'innombrables étincelles de Vénus. Khalil guette, libéré des ombres. Les étincelles unissent leurs chants et brûlent en un seul feu. Khalil demeure assis en lotus. Sur sa terre éclot une femme qui détient la semence de l'amour. Alors là, nous sommes maintenant avec Soraya, la jeune femme violée par son père. Soraya a des yeux de charbon. Son corps mince porte le poids d'une enfance souillée par le destin. Sa maison est sa tombe. Le murmure des gens, sa mort. Elle se regarde dans le miroir et aussi du ventre, en mimant la danse de la déesse mère. De petites cloches sonores serrent son ventre étroit, comme l'étreinte d'un amant, collier qui étrangle le chien, jusqu'à le laisser sans haleine. Ventre épuisé, sillonné de crampes, tatoué d'une colère implacable. Soraya danse sur l'estrade pour se fuir elle-même et arracher les clous plantés dans la chair de sa mémoire. La mémoire retient le temps dans une cage. Veux-tu entendre un conte, bel enfant? La voix de son père s'approche dans le crépuscule. La paillasse tremble. L'air est imprégné de la fumée d'un agneau qu'on brûle sur le fourneau de la cuisine. Le silence de la complice est terrible. Soraya retient son souffle. Dis-moi, duquel as-tu envie? Le rire entre les dents entre les cuisses, la percée amère dans la fissure qui mène à l'âme. Le sauvage plante sa langue d'écume et de tabac dans la gorge de l'ange. L'oral terrifiant gèle ses pleurs. Un brusque saut, un grognement lugubre, croûte qui recouvre sa mort dans cette vie, plaie sanglante. C'est ainsi. La belle demoiselle, à la peau claire et aux yeux noirs, a comblé le désir du roi. Et tout près, le silence de la complice. Soraya vend son corps, achète sa joie, elle vend de la joie et achète l'oubli, exorcise le présent en se clouant à la croix de la lascivité, martyr du plaisir et du vertige, l'érotisme, un fantôme qui l'habite et la chasse, une semence catapulte qui l'a jetée dans ce monde. Elle suit le battement hypnotique de ses paupières et répète du bout des lèvres un mantra de vers qu'elle ne connaît pas. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Elle suit le battement hypnotique de ses paupières. Elle glisse du bord du pont et entend le battement à contre-temps au-dedans de sa poitrine, le battement décalé de la vie. Maintenant, quelques extraits de l'enfant qui ne connaît pas son père. Basim habite au village des jours arides. Il joue avec l'air et parle au vent, confie ses illusions au lutin blanc. Les nuages folâtrent à l'horizon. Il comble la lente succession des heures de fleurs cueillies dans le désert. À l'ombre d'un arbuste, il contemple le même geste de sa mère qui se balance et tisse ses silences, ses soupirs, le désir que sèment sur son visage les fleurs du désert. L'enfant la regarde passer le fil de gauche à droite, de haut en bas, défaire un nœud, puis un autre, transformer le fil en morceaux et le morceau en atlas d'avenir, destin dépourvu de points fixes, barque au loin, esquivant les vagues du naufrage annoncé, comme le vol du papillon bleu dans le désert. Basim, saisi de sa petite existence, le frémissement des entrailles qui l'ont mis au monde, cette houle qui vit et meurt dans un subtil tremblement de lèvres. Un petit lézard dort sur le sable. Basim construit un mur de fossiles contre les attaques du vent. Complice, il veille sur le sommeil du frère reptile. Se demande ce qu'il sentira quand, pour dérouter l'ennemi, il abandonnera sa queue ou sa patte. C'est peut-être comme se fuir soi-même pour fuir le danger. Un scorpion passe la frontière, fixe sa noirceur dans la dorure du haut soleil. Il pointe son âme mortelle, aiguise son dard, cherche la cible sur la cuisse blanche de Basim. L'enfant veille sur le sommeil du frère reptile. Un éclair se saisit de sa main et tire son bras. De sa force animale, la mère hisse l'enfant dans les airs. Le mur de fossiles tombe, brise le sommeil du reptile. L'enfant tombe loin. Le lézard ne fuit pas, se retranche. La bestiole se presse au travers de la frontière et disparaît entre les dunes. Depuis le sable, Basim se demande pourquoi ce geste inexplicable. Sa mère a le souffle court. Les naufragés du désert, de Zingonia Zingon. Édition La Rumeur Libre et Histoire d'une marche en plein ciel suivie de poussière, d'Héloïse Sécula. Édition La Rumeur Libre. Deux très beaux recueils, deux très belles traversées féminines.
Thank you.
Voilà, alors nous attendons Somaïe Rostampour pour Femmes en armes, savoir en révolte du militantisme kurde à la généalogie. Nous l'aurons à partir de 19h30. Donc ce qu'on vous propose là, c'est qu'on va lire un certain nombre d'infos, de communiqués qu'on fait habituellement entre 20h et 20h30. Et puis nous aurons après Somaïe par téléphone sur un livre qui est vraiment extrêmement important, à mon avis, pour qu'on comprenne ce que ces femmes en armes dans Oro kurdes, hein, qu'est-ce qu'elles ont construit comme féminisme, alors qu'elles n'utilisent pas le terme de féminisme. Voilà, donc on va passer des infos, des communiqués, des rendez-vous. Le premier communiqué qui me semble important, c'est concernant Pinar Selek. Une nouvelle fois, elle a été devant la justice turque hier, le 21 octobre, donc, a eu lieu à Istanbul la 6e audience du 5e procès. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Elle a eu 4 procès qui ont été finalement qui lui ont permis d'être libre. Hein, au 5e procès, et bien. Elle n'était plus en Turquie, donc on risquait pas de pouvoir tenir le procès, mais c'est quand même un 5e procès. Et comme elle n'est toujours pas en Turquie, ça fait la 6e audience pour ce procès. Et évidemment qu'elle ne veut pas retourner en Turquie parce qu'elle sait qu'elle ira directement en prison. Donc, hier, à l'encontre de Pinar Selek, sociologue et écrivaine franco-turque, déjà acquittée lors de 4 procès précédents, ce que je viens de vous dire, c'est la 6e audience depuis 20 ans. Plusieurs procès se tiendront au cours du mois d'octobre à l'encontre d'autres personnes, journalistes, avocats, avocates, responsables politiques défendant, comme Pinar Selek, les droits démocratiques fondamentaux, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de recherche, liberté politique, défense des droits LGBTQI+. Une nouvelle fois, une importante délégation internationale s'est rendue à Istanbul avec l'espoir que le tribunal reconnaisse enfin que le dossier d'accusation de Pinar Selek est vide et prononce l'acquittement définitif de cette féministe militante des droits humains harcelée par le pouvoir turc depuis 27 ans. 27 ans, les premiers procès, c'était il y a 27 ans. L'acquittement de Pinar Selek, arrêté en 1998, donc, en raison de ses recherches universitaires sur le mouvement des Kurdes, aurait été un signe fort de la volonté des autorités turques d'avancer sur le chemin de la justice, de la paix et de la réconciliation. Pinar Selek a été présente le 21 octobre à Marseille, hein, et surtout pas en Turquie, à l'IMERA, Institut d'études avancées de l'Université d'Aix-Marseille, entouré de ses solidaires, c'est-à-dire de tous ses amis qui la soutiennent. En amont de ce procès décisif pour les libertés académiques, la sociologue a été également présente à l'Université libre de Bruxelles, qui a organisé le 15 octobre une grande manifestation intitulée « On n'enferme pas la pensée ». L'enjeu est en effet les menaces qui pèsent aujourd'hui sur toutes les libertés qui sont au fondement de la démocratie, en particulier la liberté d'expression et la liberté académique. Conscient de la fragilité du processus de paix qui se dessine aujourd'hui en Turquie, mais attentive à chaque signe d'ouverture et de dialogue par rapport au mouvement kurde, vous savez que les Kurdes ont lâché les armes, hein, et donc c'est peut-être une possibilité de paix, mais rien n'est moins sûr. La coordination internationale des collectifs de solidarité avec Pinar Selek est convaincue que son acquittement définitif pourrait être une étape importante sur le chemin de la paix. C'est pourquoi la coordination avait appelé toutes les forces démocratiques en France et en Europe à se mobiliser une nouvelle fois en ce mois d'octobre. Or, le 21 octobre, le procès fleuve par contumace de Pinard Sélec a été renvoyé pour la sixième fois au 2 avril 2026. La demande d'emprisonnement à vie et le mandat d'arrêt international sont maintenus. Ils pensent me fatiguer, mais ils n'arriveront pas à éteindre les lucioles. Le pouvoir turc est en train de perdre, a dit Pinard Sélec. Le tribunal avait affirmé en avril dernier attendre une réponse d'Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle a sa demande d'extradition. Or, Interpol a bien refusé le mandat d'arrêt, mais la cour en Turquie ne l'a pas prise en compte, selon l'avocat maître Akin Atalay. Karine Achard, couvre-feu.
Qu'il y a encore un peu de feu tout au fond de mon ventre, sous l'horizon chargé de poussière et de rage. Reverrai-je un peu de ces lumières sous ce tas de cendres, derrière les colères s'écarlates. J'étais encore il y a un cœur d'artichaut, il en reste les pelures séchées. Ils ont tari nos amours à grands coups de pied pour faire de nous des bêtes à tuer. Est-ce qu'il y a encore un peu de feu tout au fond de nos ventres? Est-ce qu'on peut encore se parler en se regardant? Reverrai-je un peu de ces lumières au fond de nos yeux, sans passer par un écran bleu? C'était encore hier des frères de galère. Il en reste les jaloux paquets. Ils ont noyé nos amours à grands coups de pied pour faire de nous des bêtes à tuer. Qu'il y a encore un peu de feu derrière l'horizon, la chaleur des accolades innocentes. Reverrai-je un peu de ces lumières qui relient les hommes sans la peur d'un coup de pied en traître?
Octobre, ce sera la clôture de la sixième action.
Ça a été
Ah bah oui, ça a été, excusez-moi, nous avons dépassé le 18 octobre. Donc le 18 octobre, c'était la clôture de la sixième action de la Marche mondiale des femmes, qui en fait avait initié à partir du 18 février 2025. On avait donc lancé cette sixième action internationale avec le slogan « Nous marchons contre les guerres et le capitalisme, nous défendons la souveraineté des peuples et le bien-vivre ». Et tout au long de l'année, beaucoup de femmes se sont mobilisées à travers le monde, des milliers, qui sont descendues dans la rue, ont élaboré des analyses communes en renforçant leurs alliances pour un monde où règnent la dignité, la justice et la liberté. Internationalisme féministe, inébranlable, nous réaffirmons, nous continuerons à marcher jusqu'à ce que nous soyons toutes libres. Vaste programme. Alors, il y a aussi un changement de date pour le prochain amphi du MAJ, le mardi 9 décembre, donc là ce n'est pas passé, qui aura lieu de 17h30 à 19h30, suivi d'un cocktail. Et le changement de lieu, c'est l'Université Paris Cité, 45 rue des Saints-Pères, donc Paris 5e, salle R229, bâtiment principal, deuxième étage. Donc la thématique, si je comprends bien, congé menstruel, quelles règles au travail. À l'occasion de la sortie du numéro 53, de Travail, Genre et Société, coordonné par Fali Gallo, UPEC, UPEC, CRHEC, IUF et Pauline Cellier, qui est à l'Université de Caen et à l'ESO, ESO. Quelles règles au travail sont fixées, en fait, pour cadrer le congé menstruel à partir de la controverse de la revue Travail, Genre et Société, donc du numéro 53. Cet amphi du MAJ propose de donner à voir des expérimentations de congés menstruels dans des contextes nationaux et internationaux variés. Il revient sur les débats scientifiques et militants relatifs à la prise en compte des menstruations au travail. Donc si cette thématique vous interpelle, ce sera le mardi 9 décembre de 17h à 19h30 à l'Université Paris-Cité, 45 rue des Saints-Pères, salle R229, deuxième étage du bâtiment principal.
Voilà, d'autres informations, slam au féminin. Collectif artistique associatif depuis 2003. Et là, c'est dans l'infolettre d'octobre 2025. Quelques moments de poésie à partager pour vivre et dire ce début d'automne qui nous malmène ou nous enchante suivant là où nos regards se portent. Reprise du slam au petit nez. Donc c'était samedi dernier, mais ça veut dire que maintenant tous les samedis au petit nez, ça reprend de 17h à 19h, atelier slam, ensuite à 20h c'est un spectacle en général, et puis après à 20h45 jusqu'à 23h c'est une scène ouverte. Alors pour un texte partagé, on offre un thé à la menthe, il y a un piano sur place, des musiciens acoustiques bienvenus, bien sûr, et des musiciennes acoustiques bienvenues, ES, bien sûr. Repas végétarien, bon et pas cher, sur place, et si on a envie, bien sûr. Alors, le petit nez, c'est 10 avenue de la Porte Montmartre, à Paris 18e, métro Porte de Saint-Ouen ou Porte de Clignancourt. Et le téléphone pour joindre le petit nez, c'est le 01 42 62 00 00. Toujours dans l'infolettre de Slam au féminin, l'atelier Slam hebdomadaire au centre Paris Anime, Binet, Paris 18e, mardi de 19h30 à 21h, sont proposés des jeux d'écriture créative et d'interprétation scénique. L'inscription se fait au 28 avenue de la Porte Montmartre, dans le 18e, et le téléphone, cette fois-ci, c'est 01 42 55 69 74 ou cpabint@actix.org, actis, acticse.org. Et puis le 26 octobre, le dimanche 26 octobre, il y aura un cabaret poétique franco-québécois au Théâtre Ouvert. Et ça sera à 18h dans le cadre du Festival du Jamais Lu à Paris. L'Agora des Pillardes, voilà le titre de ce cabaret poétique, avec 8 auteurs et autrices interprètes français et françaises et québécoises et québécois. Entrée libre sur réservation. Pour la billetterie en ligne, eh bien, le mieux, c'est quand même de téléphoner au 01 42 55 55 50 ou par mail reza@theatreouvert.com. Et le Théâtre Ouvert, il est au 159 avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement à Paris. Voilà, on va faire un petit tour du temps des cerises. Et puis on présentera les différents livres qui viennent de sortir aux éditions du Monde Libertaire. Voilà, alors le temps des cerises, ça, en général, c'est pour annoncer ce qui se passe à la librairie Publico. Mais ce qui me semble important là de vous dire, c'est qu'il y a des dernières publications des éditions du Monde Libertaire et un tout nouveau livre qui s'intitule Radio Libertaire, le Monde Libertaire et la guerre du Golfe, signé René Berthier à 10 euros. D'autres livres qui sont sortis déjà, Les anarchistes et le devoir de mémoire, Auschwitz, Nuremberg, 80 ans après, 10 euros. De Ève à Philomène, sans oublier les autres.
Ah, celui-ci, je le connais.
Voilà, c'est de Sylvie Gillot et d'Hélène Hernandez, toujours 10 euros. Séquence libertaire de MLT pour les textes, OLT pour les dessins. Et c'est un album à 15 euros. Et L'anarchie des météores, une analyse savante et critique de la question climatique de Philippe Pelletier, 10 euros. Voilà. Alors, quand je parlais du livre Le Monde Libertaire et la guerre du Golfe, enfin Radio Libertaire, Le Monde Libertaire et la guerre du Golfe, ça fait aussi référence à ce qui se passera le dimanche 2 novembre de 14h à 18h30. Radio Libertaire sera en direct à la librairie Publico avec 3 tables rondes. La première, ouvrage antimilitariste dans les dernières publications des éditions du ML, en présence de René Berthier, d'Hélène Hernandez et du réseau MACNO. Oui, alors Hélène Hernandez, c'est parce que je présenterai ou on m'interviewera, je ne sais pas sous quelle forme ça va avoir lieu, mais c'est sur la guerre contre les femmes contre la guerre. Hein. La deuxième table ronde, c'est militarisation de la jeunesse et de la société, en présence de Christian Mailleux pour l'Union solidaire et de Léonard, CNT Éduc 93. La troisième table ronde, actualité de la menace nucléaire, lien nucléaire civil et militaire, Japon, Iran, etc. En présence de Yuki Takahata, association Yosomono et Nader, groupe commune de Paris de la Fédération anarchiste. Voilà, on va continuer avec l'information sur qu'est-ce qui se passe à la librairie Publico. La librairie Publico 145 rue Amelot,
Paris 11e, métro République,
ou Voltaire.
Non, Oberkampf.
Oberkampf.
Aux filles du calvaire. Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, du mardi au dimanche. Et le samedi, à partir de 10h. Donc, dans les rendez-vous, eh bien, le samedi 25 octobre à 16h, livre Segui, rencontre et présentation de l'ouvrage Folie d'Espagne en présence de l'auteur Freddy Gomez. Du mercredi 29 octobre au dimanche 30 novembre, exposition de Claire Lartiguet, paysages et portraits. Et le vernissage aura lieu le vendredi 31 octobre à 18h. Et puis, le samedi 8 novembre à 14h30, présentation par son auteur, Philippe Pelletier, de l'ouvrage de Hiroshima à Fukushima, guerre nucléaire et politique au Japon, aux éditions des presses universitaires de Lyon. Voilà, nous allons réécouter Coma Sorswin Nouda. Et puis nous passerons la parole ensuite à Somaïe Rostampour. Ah. Bon, alors on va passer.
Hein? Catherine Ribeiro, 9 minutes.
Un peu long. C'est un peu long de passer Catherine Ribeiro, donc je te propose Annie Cordy Schfarno. Je ne sais pas comment ça se prononce.
Si j'ai le 4, pardon, excusez-moi.
Eh bien voilà, alors on va repasser Coma Sorswin Nouda. Je prononce très mal, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Alors que nous allons parler ensuite avec Somaïe Rostampour pour son livre « Femmes en armes, savoir en révolte du militantisme kurde à la généalogie ». Quelqu'un ? Bonsoir, Somaïe Rostampour. Est-ce que vous m'entendez ?
Ce n'est pas moi, Hélène. Je suis navrée, mais depuis tout à l'heure, j'essaye de vous dire que ce n'est pas moi et ce n'est pas moi. Moi, je suis Lucie. On a rendez-vous en novembre.
Ah d'accord, excusez-moi alors.
Oui,
bon.
J'ai...
Eh ben on arrête
bonne émission.
Alors.
Oui, merci. Bonne émission. Merci. Au revoir.
Problème là.
Un accident de parcours.
On attendait Somaïe Rostampour et puis c'est une charmante Lucie qui nous a répondu. Bon, alors on va vous parler quand même du livre parce que c'est un livre extrêmement important. Femmes en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la généalogie. En fait, Somaïe, elle est sociologue. Spécialisée dans les mouvements sociaux et les études de genre, et elle travaille en particulier sur le Kurdistan, sur les théories et pratiques des acteurs engagés pour la cause des femmes et les révolutions dans le sud global. On aurait vraiment aimé l'accueillir parce que son livre est très intéressant et c'est aussi une partie de son histoire, dans la mesure où elle est exilée du Kurdistan, occupée iranien, donc la partie iranienne, et qu'elle est maintenant en France. Elle a fait ses études et elle est enseignante à l'université. Et pour les besoins de son enquête, Somaïe, dans le cadre d'un travail de recherche, elle est revenue au Kurdistan. à deux reprises. Et elle a vu aussi, par rapport à ce qu'elle a connu en tant que jeune, et puis dans les deux fois où elle est retournée, elle a vu sur ces trois temps-là des choses très différentes. Elle dit que c'est une expérience, ce livre, c'est une expérience intime nourrie par le conflit kurde et une curiosité féministe et militante. En fait, c'est la troisième fois que nous abordons la gynéologie, parce que nous avions reçu des militantes internationalistes qui avaient séjourné au Rojava durant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui avaient présenté leur livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution, récit de femmes internationalistes au Rojava ». Et c'était un livre publié aux éditions Syleps en 2021. Et nous avions aussi abordé la fascinante démocratie du Rojava, le contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord, édition Noir et Rouge, paru en 2020, en faisant un focus sur les femmes du Rojava avec Pierre Banse. Donc, le livre de Somaye Rostampour, lui, il est construit sur plusieurs années de recherche sur les femmes kurdes en armes, pour certaines, et puis toutes celles qui développent des savoirs en révolte, et c'est des savoirs féministes, même si elles n'utilisent pas ce terme-là, et on va l'expliquer tout à l'heure. Le sous-titre nous dit bien « Du militantisme kurde à la gynéologie ». Alors, gynéologie, dans le livre, ça s'écrit J-I-N-E-O-L-O-J-I. Voilà. Alors, effectivement, au niveau du son, on a une racine.
C'est pas généalogie, mais J-I-N-E-O-L-O-J-I.
Voilà. On a une racine qui nous fait penser que c'est la science des femmes et de la vie. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, si Somaye avait été présente, on lui aurait demandé évidemment de nous dire pourquoi elle avait fait son livre. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'introduction et Sandrine Malika va nous lire tranquillement l'introduction. Comme ça, on comprendra un peu les choses.
Volontiers.
Si tu veux, à un moment donné, Sandrine, t'arrêter pour là, tu peux t'arrêter là, et puis je ferai un point sur qu'est-ce que c'est que le Kurdistan.
Et si elle avait été là, moi, je lui aurais demandé, alors après, on en pense ce qu'on en pense, hein, de la réalisatrice dont je vais citer le nom.
Non, pas la réalisatrice.
Non. Parce que ce que j'aurais aimé lui demander, c'est si elle avait vu Sœur d'armes de Caroline Fourest. Mm-hmm. Moi, j'ai vu. Je ne sais pas si elle, du coup, elle l'a vu, est-ce qu'elle en avait pensé. Mm-hmm. Parce que j'ai trouvé que c'était plutôt un film. Enfin, moi, il m'a plutôt parlé, quoi, ce film. Mm-hmm. Indépendamment de toute la controverse qu'il peut y avoir autour de Caroline Fourest, j'ai trouvé que le film Sœur d'armes était percutant. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir Sœur d'armes. Tu en as entendu parler?
Bien sûr.
Alors, je lis donc. Lorsque je suis entrée à Sur, rouge, ça signifie en kurde, pour la première fois en 2014 avec une délégation française, ce quartier de Diyarbakır, pardon, était hautement sécurisé. La plus grande ville kurde du sud-est de la Turquie faisait l'objet d'une surveillance renforcée et était le théâtre de fréquentes tensions qui ont fini par se traduire par des affrontements ouverts de 2015 et 2016. Sur est l'un des symboles urbains de la fameuse résilience politique et culturelle qui caractérise le peuple kurde. Il porte à la fois son héritage historique et ses luttes contemporaines, bastion contre les forces qui cherchent à effacer son identité. Ce quartier populaire est situé au cœur de la vieille muraille de Diyarbakır, dont la forteresse est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Il se reconnaît à ses ruelles étroites et à ses murs couverts de slogans du Parti des travailleurs du Kurdistan, Partia Karkeren Kurdiskan, PKK. Imprégné de kurdicité, le quartier est perçu comme une menace par l'État turc. Il a entre autres été le théâtre de nombreux rassemblements et manifestations organisées par des femmes kurdes. Alors que des vêtements suspendus à des cordes séchaient partout et que nous étions captivés par les murs recouverts de slogans, un enfant à bicyclette est apparu, suivi de plusieurs autres qui couraient derrière lui. Ils avaient vu la police entrer dans le quartier et voulaient prévenir les autres. Ils nous ont dit de ne pas avoir peur, que ce n'était que des policiers, qu'ils étaient toujours là. Les enfants n'étaient pas inquiets, car d'après eux, les policiers avaient peur de la population. Les ruelles étaient trop étroites pour laisser entrer les véhicules de police. Ils disaient cela en riant, montrant à quel point le quadrillage sécuritaire est devenu banal, même pour les enfants. En nous éloignant un peu de cette curieuse délégation, nous avons aperçu des policiers qui s'approchaient d'un centre culturel pour entamer une discussion avec les responsables. Discussion qui s'avéra vite tendue. Une militante qui nous accompagnait nous précisa de tels événements font partie de leur quotidien. Ces responsables ont souvent fait l'expérience de détention, d'interrogatoire, voire de passage en prison. 15 minutes de balade étaient donc suffisantes pour être témoin de l'esprit de révolte qui régnait dans le quartier. Les habitants avaient remplacé les noms que l'État turc avait donnés aux rues par des noms kurdes et par d'autres symboles de résistance.
Alors peut-être que là, je peux vous rappeler qu'est-ce que c'est que la population kurde, parce que c'est quand même quelque chose de très complexe. La population kurde vit sur quatre États, hein, qui sont la Turquie, là, elle vient d'évoquer la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Alors on connaît beaucoup ce qui se passe au Rojava en Syrie. Parfois, on sait ce qui se passe entre l'armée du PKK et l'armée turque sur la région de Bakour, hein, qui est la région kurde de la Turquie. Bon, est-ce que vous connaissez le Bassour, qui est la région kurde de l'Irak, et puis le Rojilat, qui est la région kurde de l'Iran? Hein, voilà, donc c'est pas rien, parce qu'en Turquie, il y a quand même 20 millions de Kurdes qui sont niés, hein, dans leur kurdicité. En Iran, il y a 12 millions. En Irak, 8,5 millions. En Syrie, 3,6 millions. Alors, il y en a un peu au Liban, il y en a un peu en Israël. À chaque fois, c'est 150 000 à peu près.
En fait, c'est en Turquie qu'ils sont le plus nombreux.
Voilà, mais il y a aussi 950 000 Kurdes en Allemagne, et puis si on veut ne parler que de la France, il y en a 250 000. Hein. Voilà, donc une diaspora qui est répartie sur le nord de l'Europe, Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande, Belgique, Allemagne, France, Autriche, Suisse, Italie, un peu au Canada aussi, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Turquie, Turkménistan et en Afghanistan aussi. Voilà, une diaspora qui est quand même répartie sur pas mal de pays, mais c'est en Turquie, effectivement, qu'il y a 20 millions de Kurdes. Et là, elle rentre donc dans cette région
de Turquie.
Oui. Alors, est-ce que tu veux continuer de lire?
Je poursuis. Le gouvernement de l'AKP, Parti de la Justice et du Développement, Adalet Fe Kalimna Partisi, fidèle à ses principes coloniaux et néolibéraux, tentait d'effacer l'identité culturelle du quartier et de déplacer ses habitants. Cette stratégie de démantèlement s'est heurtée à la résistance collective des habitants, constituant l'une des bases partisanes importantes du PKK. En 2015, un décret d'expropriation a été instauré pour saisir 82% des parcelles de la circonscription de Sours, les 18% restantes étant déjà sous la gestion du Trésor public, afin d'effacer toute trace de vie communautaire. La démolition des quartiers Lalébet et Ali Passa, de la même circonscription, a été officiellement annoncée par l'intermédiaire des haut-parleurs des mosquées, accordant seulement une semaine de délai aux habitants pour évacuer, ça peut nous rappeler aussi ailleurs. À la fin de l'année 2015, suite à la réactivation du conflit turco-kurde, les jeunes de Sours, comme ceux de nombreux autres quartiers, ont choisi de prendre les armes pour proclamer leur autonomie. La révolte des jeunes, renforcée plus tard par l'arrivée de guérilleros et guérilleras, a défié le siège militarisé, de l'État pendant 106 jours. La résistance des habitants et habitantes du quartier, dont la population était majoritairement composée de petits détaillants, de travailleurs journaliers ou de chômeurs, a été brutalement réprimée. En 2016 et 2017, une grande partie de Sours a été détruite dans ce que l'on peut qualifier d'urbicide. Les bombardements ont transformé ce lieu vibrant en un vaste champ de ruines. Les maisons blanches en basalte, les anciennes ruelles, les églises, ainsi que toute la vie qu'ils abritaient, ont été anéanties. En 2019, lors de mon retour à Diyar Bakir, j'ai constaté que Sours avait été ravagé sous prétexte d'un recyclage urbain, à savoir une volonté de revitaliser les zones urbaines en démolissant des bâtiments anciens pour construire de nouvelles infrastructures. L'histoire multiethnique de la ville avait été emportée. Si on avait été dans un autre pays, tout aurait été fait pour s'approprier cet héritage, pour le restaurer. Ici, l'État a fait l'inverse. Ce patrimoine n'est pas le sien, ne fait pas partie du pays, ça fait partie du Kurdistan, donc ça n'a pas de valeur, confie un architecte kurde indépendant. Ce processus de gentrification, l'État turc affirme vouloir récupérer ce qui reste du quartier pour en faire un lieu touristique, est marqué par le pillage, la corruption, le génocide culturel, l'exil forcé et le nettoyage ethnique. Au final, la reconstitution de Sours est tellement axée sur une logique sécuritaire que de nombreux centres de santé et espaces dédiés à la jeunesse ont été transformés en postes de police, où le drapeau turc flotte souvent aux côtés du portrait du président. C'est un grand paradoxe parce que les Turcs, qui visiblement, je dis bien visiblement, semblent soutenir la cause palestinienne vis-à-vis des Kurdes, ils ont l'air très insensibles. Grand paradoxe, c'est une parenthèse. Le quartier ressemble désormais davantage à un camp militaire qu'à un centre historique ou même touristique. Les nouvelles structures sont froides, uniformes, en béton et dotées de nombreuses caméras de surveillance. La chaîne d'exploitation économique de domination militaire permet à l'État turc d'occuper et de s'approprier les territoires. Malgré les violences incessantes et l'intensification des frappes étatiques, les habitants de ce quartier assiégé ont opposé une résistance remarquable. Un exemple de ce bras de fer inégal m'a été confié lors d'une rencontre en 2017 avec une mère kurde dans le bureau d'un parti politique. Elle m'a raconté avoir passé plus de 18 heures dans le quartier, espérant désespérément récupérer le corps d'un jeune kurde martyr tombé dans la rue, afin de le rendre à sa famille avant que les forces de sécurité ne le saisissent définitivement. Les femmes du quartier, et plus particulièrement les mères, ont dû s'adapter, passant de victimes à actrices politiques. Cette anecdote est le signe d'un mouvement plus large, celui de la politisation des mères kurdes, qui ont fait de leur maternité un acte de résistance face à la violence de l'État. Cette complémentarité stratégique entre engagement civil et lutte armée est essentielle dans le mouvement kurde. Chaque sphère bien qu'autonome, renforce l'autre en développant des politiques spécifiques. Cette solidarité et cet engagement s'étendent à tous les niveaux, et c'est un phénomène que vous retrouverez tout au long de ce livre.
Voilà, alors dans ce livre, elle dit bien que le point de départ de son travail, c'est une expérience intime nourrie par le conflit kurde et une curiosité féministe et militante. Quand j'ai quitté la terre de mon enfance, le Kurdistan occupé iranien, pour poursuivre mes études en France, une menace de génocide planait sur les Kurdes du nord et du nord-est de la Syrie, une région connue sous le nom de Rojava. Ce territoire qui se démenait contre l'État islamique incarnait un fragment tangible du Kurdistan rêvé par plus de 40 millions de Kurdes à travers le monde. Un pays imaginaire, puisque morcelé par les puissances coloniales après la Première Guerre mondiale. Partagé entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie, ce Kurdistan portait les stigmates d'une répression étatique centenaire, à laquelle répondait une résistance empreinte d'idéaux politiques et militaires associés au socialisme. En 2014, la ville de Kobané, ça c'est au Rojava, surnommé le Stalingrad kurde, est devenu le symbole de la résistance face à Daesh, une résistance portée par le courage des combattantes kurdes. La solidarité à cette lutte s'est manifestée sous différentes formes, par des manifestations, par des productions culturelles, par des discours, mais aussi par l'engagement armé. Des Kurdes des trois autres régions sont venus, donc des femmes, sont venues combattre auprès de leurs camarades de Syrie. Membre de la diaspora, j'ai intégré une délégation féministe des environs, animée par le désir de tisser des liens avec les militantes kurdes. Au cours de nos rencontres, j'ai découvert un féminisme populaire, enraciné dans les réalités locales, qui mêlait émancipation des femmes et résistance collective à la colonisation, et ouvrait la voie à une expérimentation politique basée sur la démocratie directe, l'écologie et l'égalité des genres. J'ai vécu cette découverte comme un tournant personnel qui a orienté mes recherches vers le mouvement des femmes kurdes en Turquie. Le modèle révolutionnaire du PKK, basé en Turquie, en place au Rojava, m'est apparu comme une alternative radicale au modèle néolibéral et pro-occidental de la région autonome du Kurdistan en Irak. Une alternative qui, je l'espérais, pourrait inspirer les Kurdes d'Iran, et notamment les femmes. Cette idée s'est matérialisée en 2022 lorsque la révolte féministe iranienne a repris le slogan du PKK « Femme, vie, liberté », signe de la capacité des symboles de résistance à transcender les frontières imposées aux Kurdes. La politique turque, marquée depuis 1923 par une négation systématique de l'identité kurde jusqu'à l'interdiction des termes kurdes et Kurdistan, alors que ce peuple représente environ 20% de la population, a mené à l'émergence du PKK dans les années 80. Cette force armée a transformé la lutte pour la reconnaissance des Kurdes en une quête de libération nationale, porté par un projet de décolonisation du Kurdistan, soutenu par des millions de sympathisants. Dès les années 90, le PKK a intégré les femmes dans ses rangs, remettant en question les normes de genre et faisant de la guérilla une figure symbolique d'émancipation. Voilà, on va arrêter de lire là, et puis on va passer... une petite musique, mais quand elle vient d'écrire là dans son introduction que le PKK a remis en question les normes de genre,
le livre, il a un intérêt énorme, c'est qu'elle est très lucide sur jusqu'où ça remet en question les normes de genre. Voilà.
Tout à l'heure, tu évoquais les normes de genre. Est-ce que tu peux... Enfin, qu'évoque la sociologue, mais donc, qu'est-ce qu'elle entend, en fait, par là, les normes de genre, là-bas?
Alors, je vais lire la suite de son introduction. La transformation des rapports de genre dans le mouvement de libération des femmes kurdes. Constitue un espace unique d'expérimentation avec ses effets positifs et négatifs. Comme nous le verrons, si la guerre a permis de déconstruire les normes patriarcales, elle a aussi imposé des contraintes qui ont limité l'expression individuelle et plurielle des combattantes. Paradoxalement, ces contraintes ont favorisé une redéfinition des rapports de pouvoir en plaçant le genre au cœur des débats militants. La lutte pour la kurdicité a ainsi permis l'émergence d'une organisation féminine forte, une puissance qui contraste avec les trajectoires d'autres mouvements de libération nationale. C'est-à-dire que les femmes, elles ont pris leur place en tant que femmes armées, mais elles ont pris leur place en tant que femmes qui discutent, qui remettent en question, là c'est moi qui parle, hein, c'est plus l'autrice,
oui.
qui remettent en question toutes les normes patriarcales. Les normes patriarcales qu'on peut voir dans ces pays-là, c'est quand même l'homme qui est le chef de la famille, vraiment complètement, hein. Et les femmes qui ne sont qui sont pas grand chose à part de faire des mômes, hein. Et d'ailleurs dans certains pays
et s'occuper du foyer, la cuisine, l'entretien,
s'occuper du foyer, bien sûr. Voilà, là il y a du positif dans, et puis des mariages forcés, des mariages arrangés, même s'ils sont pas forcés, ils sont au moins arrangés. Là, il y a du positif pour toutes ces femmes kurdes, c'est que le fait, pour certaines d'entre elles, d'être allées dans l'armée, leur a permis
d'affirmer peut-être quelque
de s'affirmer, c'est sûr, et puis d'échapper au mariage qui était concocté peut-être par leur famille. Au prix de quoi? C'est que dans l'armée, il n'y a aucune relation sexuelle qui n'est permise. Aucune relation amoureuse qui n'est permise.
De fait.
Parce que sinon, les familles n'auraient jamais laissé leur fille partir dans l'armée. Voilà. Donc c'est là qu'on a des contradictions. Hein. C'est-à-dire que l'Occident apparaît aux yeux et aux oreilles du monde oriental, on va dire, hein, et des Kurdes. L'Occident apparaît dans sa phase de libération sexuelle. Or, eux ne veulent pas entendre parler de ça.
C'est-à-dire que, effectivement, la libération sexuelle là-bas, pour ce que ça représente, finalement, les femmes qui font la guerre, les femmes qui se mettent à faire la guerre, je ne dis pas qu'elles font ça pour gagner en liberté, mais paradoxalement, elles font ça pour défendre leur identité, mais du coup, elles vont gagner en liberté.
Bien sûr, elles gagnent, et c'est ce qu'elles disent dans le livre. Plusieurs femmes disent ça, qu'elles gagnent en liberté et qu'elles échappent aux normes patriarcales qui sévissaient dans leur famille. Mais en même temps, la liberté pour nous femmes occidentales, c'est une liberté de penser, c'est une liberté d'agir, c'est une liberté amoureuse aussi. Hein, c'est pas que voilà. Et ça, dans la période qu'elles vivent, ces femmes, eh bien, il y a eu des règles très très strictes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il ne doit pas y avoir de relations, parce qu'il y a des armées qui sont mixtes, il ne doit pas y avoir de relations entre les hommes et les femmes. Que ce soit des relations amoureuses, platoniques, ou que ce soit des relations sexuelles. Et ça pose à une autre question, encore, et qu'elle pose très bien dans le livre, quid de l'homosexualité ou du lesbianisme? Il n'est pas plus accepté, il est autant interdit.
Mais c'est une discipline militaire, disons.
Voilà, voilà. Mais... c'est pas que une discipline militaire, parce que toutes les femmes ne sont pas en armes. Elles sont dans la vie sociale aussi. Elles sont dans les villes, elles sont dans les montagnes, elles sont partout, hein. Et que là, on sent bien que il y a ce qu'ils appellent une démocratie qui ne devrait pas être autoritaire, mais une démocratie et un confédéralisme démocratique, hein, comme ils le disent, qui organise toute la vie et pas simplement l'armée. Et donc, partout où il y a des hommes et des femmes, c'est la même rigueur de vie pour pouvoir être libre et pour pouvoir enseigner aux générations à venir une liberté de penser, une liberté d'agir. Évidemment, quand des couples vont se former et quittent l'armée, hein, mais ils sont emprunts déjà d'une idéologie, hein, qui respecte chaque individu. Voilà, c'est ça qui est très fort dans la généalogie, cette science des femmes et de la vie. C'est-à-dire, c'est pas simplement un féminisme entre femmes, c'est aussi une organisation de la vie.
Oui, d'accord. C'est très particulier, effectivement.
Voilà. Donc, si on continue ce qu'elle nous en dit, là, les premiers chapitres de ce livre explorent les origines du MLFK, donc du mouvement
de libération de la femme kurde.
Voilà, des femmes kurdes. son rôle au sein du PKK et son évolution du marxisme-léninisme vers l'autonomie et le confédéralisme démocratique. Voilà, parce qu'on a toujours associé le PKK à quelque chose de marxiste-léniniste. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement vers une confédération démocratique. Hein. Et ça, ça a été développé par leur leader, là, Abdullah Öcalan, qui est en prison depuis des années. Issu majoritairement de milieux modestes, les femmes kurdes ont investi et féminisé des espaces militants jusque-là dominés par les hommes, grâce notamment à l'usage de pratiques telles que la non-mixité choisie. Elles ont redéfini la division sexuelle du travail armé, tout en remettant en question la masculinité guerrière. Elles ne se revendiquent pas de cette masculinité guerrière, du tout. Le livre accorde également une attention particulière à la question de la violence, en analysant comment les frontières du genre peuvent être redéfinies dans le contexte du travail révolutionnaire. Malgré des tensions telles que celles liées à une forme d'imposition de la désexualisation, puisque quand on est dans l'armée, il y a plus de relations sexuelles, il y a même pas de relations affectives ou amoureuses, hein. Donc le corps est désexualisé. Les femmes sont habillées comme les hommes aussi pour limiter cette possibilité de sexualiser. Donc, malgré des tensions telles que celles liées à une forme d'imposition de la désexualisation, ces femmes ont réussi à transformer les hiérarchies de genre et à reconfigurer les rapports de pouvoir dans un univers marqué par la masculinité.
On est peut-être aussi un peu obligé d'être habillé de façon plus masculine également par rapport aussi aux tâches qui peuvent être amenées à effectuer.
Bien sûr, bien sûr, mais ça y participe, voilà. Cet ouvrage analyse également une innovation majeure développée au sein du PKK, la gynéologie, ou science des femmes. Ce terme désigne un corpus de textes intégré au courant de pensée du mouvement des femmes kurdes au sein du PKK. Ce paradigme local vise à produire un savoir martial et féminin enracinée dans les expériences des militantes kurdes, sans nécessairement se revendiquer comme féministe, une étiquette qu'elles rejettent majoritairement. En fait, là, ce qui est dit, c'est qu'il y a une écriture, il y a des textes écrits qui utilisent à la fois les textes d'Öcalan et à la fois les expériences des femmes. Et c'est parce qu'il y a des réunions, même internationales, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en France, et elles accueillent des femmes qui veulent bien vivre de cette façon-là aussi. Hein. Donc il y a du mouvement, il y a de la tension, mais il y a du mouvement entre le féminisme occidental et puis la généalogie. Généalogie. Les luttes des femmes kurdes offrent une occasion de repenser les féminismes contemporains et d'explorer un champ inédit sur le militantisme féminin au Moyen-Orient, longtemps marginalisé. Cet ouvrage retrace l'histoire de cette révolution féminine située à la croisée, du militantisme et de la production d'un savoir populaire, tout en adoptant des perspectives anticoloniales et anticapitalistes issues des féminismes du Sud. Refusant les stéréotypes orientalistes, les perspectives eurocentriques et les approches essentialistes, il invite à comprendre ce mouvement dans un contexte façonné par l'autoritarisme et le colonialisme, des réalités souvent éloignées des cadres de référence occidentaux. Là, et elle rejette, hein, on est bien clair, tout ce qui est stéréotype orientaliste. La femme douce, jolie, voilà, qu'on peut retrouver dans
oui, l'état. Oui, la façon de passer à certaines peintures aussi, voilà, voilà. Sur la banquette.
Voilà. Les perspectives eurocentriques, tout ce qui est, l'occidentalisme, hein, et les stéréotypes, qu'est-ce que j'ai mis là, et les approches essentialistes, c'est-à-dire que la femme ou les femmes sont des sujets et ne sont pas définies dans une essence féminine. Voilà. Ça va?
L'essence féminine, j'ai pas tout
compris. On va prendre ce que nous disait Antoinette Fouque, hein, avec l'essence. La femme, elle est forcément meilleure que l'homme parce que elle met au monde des enfants. Enfin, la nature féminine qui est essentialisée, alors qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui
n'en désirent pas.
Et qui n'en désirent pas.
Qui ont le droit de ne pas en
désirer. Voilà. On va repasser une chanson. Awezek Teji Rojava, ça vient de la télévision, justement, de ces femmes. Oui, alors nous sommes toujours dans l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Nous attendions la venue de Somaïe Rostampour, femme en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la gynéologie. Elle devait venir et voilà, nous l'attendions et nous avons commencé à commenter un peu son livre.
Alors, je lis un extrait qui s'intitule « Production, circulation et appropriation de la généalogie ». Bien que le concept de généalogie soit apparu dès 2008, les premières discussions au sein du PKK concernant cette science locale ont réellement débuté dans les académies des maquis du Kurdistan, où le premier comité de la généalogie a été fondé en 2011. Ce comité a joué un rôle pionnier en coécrivant l'une des premières œuvres majeures sur le sujet, publiée en 2015, Introduction à la généalogie. C'est également en 2015 que s'est tenue une conférence marquante consacrée à la généalogie, précédée d'une en 2012 au Bassour et de la première conférence internationale en 2014 en Allemagne. Par la suite, d'autres ont été organisées en Europe, notamment à Cologne, Stockholm et Paris, illustrant l'expansion croissante de cette discipline sur la scène mondiale. Dès lors, la généalogie est devenue une composante intégrale des institutions civiles pro-PKK dans les quatre régions du Kurdistan, notamment au Rojava, où les responsables de la généalogie s'engagent activement dans son institutionnalisation. Le gouvernement autonome l'a intégré dans ses programmes officiels scolaires, des collèges au lycée, en passant par les académies. De plus, la faculté de généalogie de l'Université du Rojava, à Kamishli, a été créée au sein du département des sciences sociales et organise depuis 2020 plusieurs rencontres et débats. Un centre principal de recherche sur la généalogie a été établi au Rojava, dont les membres collaborent avec des initiatives civiles. Des comités ont été formés dans les quatre régions du Kurdistan. Le comité généalogie a également connu une activité accrue en Europe ces dernières années. Il est présent dans plus de 12 régions et a organisé diverses conférences et camps sur la discipline. Le mouvement des femmes kurdes a également diffusé la généalogie dans plusieurs régions d'Amérique latine, de Russie, d'Afrique du Sud, ainsi que divers États des États-Unis et du Canada. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre plus large des nombreuses initiatives du PKK, ayant jeté les bases de la généalogie, création de l'armée des femmes et du parti des femmes en 1995, élaboration de théories et projets politiques. Cette approche, à la fois pratique et théorique, est enrichie par un dialogue dynamique entre le maquis et la prison, entre le leader et les membres du PKK, souvent jeunes et issus de milieux défavorisés, ainsi que les militantes civiles et les femmes participant aux événements du mouvement kurde. Sa diffusion a entraîné le développement de deux formes de généalogie, celle de Sia, montagne, branche armée, et celle de Bajar, ville, branche civile. Contrairement à l'homogénéité des contributrices de l'espace armé, les productions de l'espace civil reflètent une grande diversité de participantes. Par exemple, les articles publiés dans la revue Généalogie d'Ergissi ont été réalisés par de nombreuses chercheuses et militantes et montrent une grande inclusivité. Plus de 200 femmes sont impliquées, y compris celles issues de classes défavorisées. Publiée tous les trois mois depuis 2016 au Bakour, cette revue, dont chaque numéro est consacré à des sujets spécifiques, bénéficie d'une large diffusion au sein de réseaux du mouvement. Elle facilite les échanges entre militantes, universitaires et cercles féministes en Turquie, sollicitant des contributions de féministes du Proche-Orient et d'Occident. Cet effort de collaboration va bien au-delà de la simple publication d'une revue. Il s'inscrit dans un projet global visant à connecter la généalogie aux réalités sociales et aux mouvements de femmes. Cette diffusion se déploie ainsi à travers une série d'initiatives et d'événements dans diverses régions, allant du camp de réfugiés à Makmour au centre de généalogie à Bruxelles. En s'adaptant aux contextes locaux et aux besoins spécifiques des communautés, les savoirs et les théories sont partagés non seulement à travers des articles, mais aussi par des livres, des textes et des assemblées, consolidant les dynamiques féministes, tant locales qu'internationales. L'ouvrage fondateur de cette science, « Introduction à la généalogie », écrit en turc, est traduit en plusieurs langues, kurde, arabe et persan, est en cours de traduction dans d'autres, anglais, espagnol, allemand et français. Les femmes ne se contentent pas de recevoir passivement une éducation idéologique, elles s'engagent et adaptent cette idéologie à leur réalité locale. Eline, une cadre active dans ce domaine, explique « L'idée est que toutes les femmes puissent participer à l'enrichissement du débat autour de la généalogie et qu'elles s'efforcent de se regrouper et de retravailler sur la question afin d'éviter que la généalogie ne prenne une direction qui ne corresponde pas aux situations locales. » La confusion entre la diffusion idéologique descendante d'Ocalan et les adaptations locales de la discipline par ses militantes peut sembler contradictoire, mais elle met en lumière la double nature de cette idéologie. Bien que structurée par Ocalan, la généalogie demeure souple et évolutive. Par exemple, le discours d'Ocalan était largement centré sur la dualité entre la femme victimisée, entre parenthèses esclave, et la femme héroïne libérée. En revanche, celui de la généalogie reconnaît davantage de nuances entre ces deux pôles, intégrant la complexité des vécus féminins et les multiples formes de résistance au patriarcat. Ce processus participatif, profondément ancré dans la culture orale de circulation du savoir, retravaille les idées descendantes de manière ascendante. Cette implication active dans la production du savoir leur confère un sentiment d'appartenance et de confiance.
Là, je crois qu'on voit bien comment se construit entre les écrits du leader, au Calan ou au Salan, et puis la réalité locale de
la contribution des autres.
Et donc, je crois que ces femmes ont construit quelque chose qui va d'une façon ascendante du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut, et surtout l'horizontalité. Hein, je crois que c'est ça qui permet de comprendre.
Elle n'exclut pas Ocalan, par exemple, qui est
non,
un homme.
Non, 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 parce que c'est lui le théoricien, c'est lui qui écrit en prison et qui est repéré comme le leader. Hein. Voilà. Alors après, pour terminer, parce que on va vers la fin de l'émission. Donc je vous ai dit que les corps des combattantes sont désexualisés tout à l'heure, mais en même temps c'est un défi de la face à la masculinité guerrière, c'est-à-dire elles sont ce qu'elles sont, elles sont pas, elles veulent pas être des hommes, elles sont des femmes, et je crois que ça c'est important de le voir, parce que dans une armée c'est pas si simple que ça. Il y a toute la question de la violence révolutionnaire qui est vraiment très bien traitée aussi dans le livre, en lien avec est-ce que la violence elle appartient aux hommes ou est-ce qu'elle appartient aussi aux femmes, hein, voilà, c'est traité comme ça. Et alors il y a tout un aspect, on va dire là plutôt théorique, de contestation du mythe matriarcal imaginaire, hein, comme s'il y a eu des femmes avant qui imposaient un matriarcat, comme les hommes aujourd'hui imposent un patriarcat. Voilà, donc il y a tout ce regard de l'autrice Somaïe Rostampour pour dénoncer que c'est un mythe matriarcal imaginaire et que c'est pas d'un niveau scientifique de ce point de vue-là. Hein. Voilà. Et comment elle interroge, ce qu'on expliquait aussi tout à l'heure, la nature féminine. Les femmes ne sont pas des ventres à faire des bébés. Voilà, elles ont une autre vie à construire pour elles-mêmes. Et puis, quand il y a tout un chapitre sur un féminisme qui ne dit pas son nom, car ça critique le féminisme libéral, ça critique le féminisme occidental. Et le féminisme turc, parce que c'est trois obstacles, d'après elle, à la lutte anticoloniale. Elles sont colonisées par la Turquie sur leur territoire de Kurdistan, et donc il est hors de question d'accepter des féminismes qui ne remettent pas en question cette notion de colonisation. Voilà. Et pour terminer, une belle leçon. Des femmes longtemps marginalisées qui ne sont pas de simples exécutantes d'un projet politique, mais en sont les architectes. Somaïe dit, leur engagement dépasse la seule lutte pour la reconnaissance. Il incarne une quête profonde de justice sociale et d'égalité capable de transformer en profondeur l'ordre social. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, c'est comment des femmes ont réussi à critiquer le patriarcat au point de transformer un peu, et il faudrait que ça continue bien sûr, l'ordre social qui régnait et qui les emprisonnait très fortement. Voilà, c'est le livre donc de Somayeh Rostampour. On espère l'avoir en direct lors d'une autre émission. Femme en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la généalogie. Et c'est chez Agon, dans la collection Contre-feu. Et pour terminer l'émission, eh bien, nous allons vous donner le programme de la semaine prochaine. Mais juste avant, il y a quand même une petite information. Le mardi 11 novembre, on a parlé du dimanche 2 novembre, mais le mardi 11 novembre, il y a un rassemblement à 14h, place de la République à Paris, organisé par la Fédération anarchiste, la Libre Pensée, l'Union des pacifistes de France, l'Organisation communiste libertaire, la Cité des droits des femmes, le syndicat unifié du bâtiment RP, qui appartient à la CNTF, la Coordination régionale antinucléaire Île-de-France et le SATAMI CARO, qui sont nos amis espérantistes. Donc, mardi 11 novembre, rassemblement à 14h, place de la République, avec des tables de presse, des prises de parole et des chansons. La semaine prochaine, l'émission du 29 octobre sera consacrée à Chez Madeleine avec Maïsoun, un portrait à plusieurs voix d'une inconnue, Madeleine Martin, anarchiste belge, athée, bibliophile et musicienne, comme elle aimait se décrire. Elle est décédée en 2011, porte de Saint-Ouen. Cette militante au caractère bien trempé a légué son appartement à l'association de quartier dans laquelle elle était très investie, et une association qui s'appelle Échange. Ce sont ses amis qui la racontent, qui se souviennent, et c'est ce lieu, Chez Madeleine, qui nous accueille dans le documentaire de 36 minutes que Maïsoun nous évoquera. Ça sera la première partie de l'émission. La deuxième partie, ça sera sur les féminicides en France, année 2025, 10 mois. Combien sont recensés de féminicides? Combien aurait-il pu être évité? Où en est-on de la grande cause du premier quinquennat Macron? Voilà, bonsoir. Et féministe tant qu'il le faudra, avec Estelle et Sylvestre, l'hymne des femmes.
Nec vivine, nec vetera victem, 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 nec vivine, nec vetera victem,
nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire, debout, femmes en rage. Et détruisons nos cages. Debout. 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 Debout.
Prisons-nous. Considérer mon action que comme la mienne et non celle d'un parti où déjà diverses compromissions s'accumulent pour mieux se compromettre ensemble. Je me propose donc seul à la critique comme à l'éloge, sans parti et pour voir plus loin, sans pays, sans frontières et sans notion de nationalité. Si je dois déclarer la guerre, c'est à la guerre, au nationalisme, à la division et au travail sans joie. Mon autocritique m'amène à vous dire ceci. J'ai touché au jeu politique et mes mains se sont salies. Mais une nouvelle vision vient de m'être donnée qui m'éclaire sur la route à suivre. Et l'amertume, l'aigreur ou le goût du pouvoir que le jeu politique aurait pu me procurer ont été remplacés par une vision d'un monde ludique d'où l'enfer que notre terre paraît abriter serait possible à repousser. Ainsi, le travail ne sera plus le but de la vie de l'homme que je vous propose de créer, mais bien plutôt l'accomplissement, l'épanouissement de chaque être ou chose qui voit le jour. L'homme libre, libéré, commencera par la suppression de l'homme esclave, de l'homme machine et de la bureaucratie. Supprimer l'impôt, les frontières, les monnaies, mettre à la disposition de tous et sans condition aucune tous les progrès, si l'on peut dire, que la technique peut apporter, me semble le premier devoir à remplir, non par un homme ou un parti, mais par l'ensemble de tous ceux qui voudront bien se convaincre à travers le monde que sans la libération de chaque individu, il n'y aura, pas plus qu'il n'y a jamais eu, de libération non pas seulement des masses, mais massive de l'homme.